Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence. C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio avec Alain Jeanne.
Bonsoir à tous, comme chaque lundi désormais à 19h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Brenige FM.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Allez, c'est donc parti pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé inédit, consacré dans un instant à la sortie du film Roxane qui sortira le 12 juin sur vos écrans. Nous recevrons à cette occasion d'ici quelques toutes petites minutes Mélanie Offret, sa réalisatrice, mais également Guillaume de Tonquédec. Un rendez-vous évidemment à ne pas manquer. Et puis ça sera également une spéciale Camping Paradis aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé à l'occasion de la diffusion de l'épisode cette année-là qui a été réalisé par Laurent Ournac. Un épisode qui va vous replonger dans l'histoire du Camping Paradis en 1976. À cette occasion, Laurent Ournac sera notre invité exceptionnel et Mathias Van Kaj, qui joue le rôle de son père, sera également avec nous. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis Anne Charrier sera notre invitée. C'est le grand retour de Marjorie mercredi sur France 2, l'âge de raison, avec notamment en guest Thierry Frémont, plus vrai que nature, en inspecteur des impôts, pas comme les autres. Et puis on parlera également de la sortie du film Venise n'est pas en Italie, qui est sorti mercredi dernier. Son réalisateur Yvan Kelberak sera en ligne avec nous pour nous en parler, ça tombe bien, car c'est aussi le créateur de la série Marjorie. Donc vous l'avez compris, c'est un programme chargé qui nous attend. On va tout de suite démarrer, comme d'habitude, avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Alors on commence avec lundi, puisque c'était le final de Clem. Vous avez été nombreux quand même à suivre le final de Clem, quasiment 4 millions de téléspectateurs et 18,6% de part de marché. Meurtre Paradis, talonne vraiment s'en sort très très bien sur France 2 avec 3 535 000 téléspectateurs et 16,3% du public. Le meilleur pâtissier professionnel s'effondre à 1 803 000 seulement et 8,8% de part de marché. Mardi, c'est le Voyageur qui arrive devant Manifest, qui baisse en audience. Le Voyageur sur France 3 attire 4 613 000 téléspectateurs et Manifest 4 149 000. C'était le match au sommet entre TF1 et France 3. Recherche appartement ou maison également sur M6, 2 004 000 téléspectateurs et Tout le monde joue sur France 2. Toujours un très petit score, même pas 2 millions de téléspectateurs et 9,7% du public. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le petit point des audiences de la semaine dernière. On va tout de suite démarrer notre spécial Roxane, le film qui sort le 12 juin au cinéma.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné, on va le démarrer dès maintenant. C'est un de nos films coup de cœur au Festival de l'Alpe d'Huez. Ça s'appelle Roxane et nous avons la chance d'avoir Mélanie Offret, sa réalisatrice, qui est avec nous. Bonjour Mélanie.
Bonjour, alors je me permets de dire, c'est Mélanie Offret. On prononce le T comme une vraie, comme un vrai nom breton.
D'accord, et oui, parce que t'es bretonne.
Exactement, je suis bretonne. Et c'est pourquoi du coup j'ai eu envie de tourner Roxane en Bretagne pour montrer la belle Bretagne.
Exactement, alors dans un instant on aura Guillaume de Tonquédec aussi, qui va nous rejoindre et qui va nous parler évidemment de Raymond. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Où est-ce que t'as eu cette idée un peu folle de tourner avec des poules? C'est incroyable.
Voilà, parce que je trouve que c'est des comédiennes assez extraordinaires. Elles ont un potentiel comique énorme et c'est vrai qu'on n'avait pas eu la chance de les voir beaucoup à l'écran avant.
Alors après, Guillaume de Tonquédec, c'est un coup de cœur. Est-ce que t'as pensé à lui directement?
Guillaume de Tonquédec, c'est un énorme coup de cœur. Et puis en plus, ce qui est terrible avec Guillaume, c'est que quand on le rencontre, on en devient tout de suite fan. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que quand j'ai rencontré Guillaume, il a eu une envie de faire le film, il voulait tout dévorer, il voulait juste défendre le personnage et c'était super parce qu'on avait qu'une envie, c'était tous les deux de casser l'image de Guillaume de Tonquédec et qu'à l'écran, il ne reste qu'une chose, c'est Raymond Leroux. Et ça, Guillaume l'a fait avec brio et je l'adore en Raymond Leroux, il est fabuleux.
À quel moment, parce que c'est ton premier film, tu as co-signé également le scénario avec Michael Souhaité. À quel moment a démarré l'histoire de ce film? À quel moment tu as eu l'idée de vouloir réaliser?
Alors, à la base, tout est parti d'un court-métrage qui s'appelle « Sois heureuse ma poule », qui était présent il y a 2 ans au Festival de l'Alpe d'Huez, qui avait été tourné avec une production qui s'appelle « La production familiale ». C'est-à-dire que tous mes proches avaient cotisé pour le film et j'avais pu le faire et j'avais tourné avec des vrais agriculteurs de ma région. Et ce court-métrage a une vie complètement insolite puisqu'il est parti à l'Alpe d'Huez et dans plein d'autres festivals. Et c'est comme ça que j'ai été repérée par mon producteur Foucault Barré, qui m'a appelée un matin me demandant si j'avais une idée de long en rapport avec mon cours, parce qu'il l'avait vu à l'Alpe. Je lui ai dit tout de suite oui, évidemment que j'en ai une, et puis évidemment que j'en avais aucune. Je n'avais aucune idée. Je me suis dit, mon Dieu, mais dans quoi je me suis embarquée? J'ai dit oui.
Il va me faire tenir 1h30 maintenant.
Il va me faire tenir 1h30. J'ai un rendez-vous dans 2 semaines. J'ai rien à proposer. Donc, du coup, je suis repartie en Bretagne à la recherche d'un sujet et d'une idée. Parce que mon court-métrage tenait 7 minutes, donc ça servait à rien de vouloir en rajouter pour 1h30 de film. Hein. Donc je suis partie à la recherche de mon idée, j'étais passée du temps en Bretagne avec des agriculteurs. Et un matin à la traite, un agriculteur m'a dit qu'il avait une passion pour la poésie et les grands textes. Et qu'il adorait en réciter à ses vaches, parce qu'il avait l'impression que ça les rendait heureuses. Et qu'en plus avec elles, il n'y avait pas de jugement. J'ai trouvé ça tellement incroyable comme anecdote, je me suis dit mais juste en fait il est là le sujet. Je trouve qu'en fait, dans cette anecdote, il y a tout. Il y a l'histoire de la passion des mots et de la passion de leur métier, parce que ce sont des gens qui font leur métier avec avec une envie. C'est plus que leur métier, c'est leur vie. Et du coup, je trouvais ça génial de raconter ça à travers cette anecdote.
Et alors avec des poules ?
Et alors avec des poules. Là, j'ai pas pris des vaches, j'ai pris des poules. Et j'en suis très contente parce que tout le monde me dit « Mais les poules, en fait, c'est intelligent une poule !» Évidemment que c'est intelligent une poule. Donc voilà, et après, notre Raymond est toujours avec sa Roxane, sa poule préférée, parce qu'un agriculteur est toujours avec son chien, et nous, plutôt que Raymond ait un chien, on a choisi qu'il ait une poule.
Il a fallu adresser, évidemment, et ça, c'est tout le talent des dresseurs d'animaux pour le cinéma. Et toi, tu t'es entouré de Manu, qui a pu effectivement dresser, qui a des poules dressées. Il y a 11 ou 12 Roxane.
Il y a 11 Roxane, tout à fait. Bon, après, je vous cache pas que sur les 11, il y avait surtout beaucoup de doublures poules, pour la lumière et tout ça, parce que la vraie Roxane était en loge, elle voulait pas faire trop d'heures. Non, je rigole. Mais non, on avait 11 Roxane, et donc on avait les Roxane cascadeuses, la poule cascadeuse pour toutes les scènes de voiture, la poule suiveuse, la poule épaule. Et donc du coup, voilà, et on avait notre Roxanette qui était la poule préférée de Guillaume, et qui était la poule pour les scènes d'émotion. Elle donnait beaucoup.
Dis-moi, quelle a été pour toi la scène sur le papier que tu redoutais peut-être le plus ? Et cette scène, comment elle s'est passée après, du coup, au tournage ?
La scène que je redoutais le plus... Non, il y a une séquence que je trouvais très dure à faire. C'est la toute première séquence du déjeuner. Du déjeuner au tout début du film. C'est mon tout premier jour de tournage. J'ai devant moi 6 comédiens qui sont chauds patates. Et moi, je suis stressée, c'est terrible. Je me dis, mon Dieu, à une scène de repas, va falloir avoir les yeux partout. Il y a 2 caméras. Il faut que ça vive. Il faut que cette famille ressemble à la mienne. Quand on déjeune, il faut qu'on y croit et que la question ne se pose pas un seul moment. Et qu'en même temps, tous les personnages existent. Et c'est toujours très compliqué, les scènes de repas. Et je crois que c'était celle-ci qui, à l'écriture, je me disais, waouh, ça va être sportif. Même au découpage, va falloir penser à tout, avoir l'œil sur tout. Donc oui, celle-ci, c'est une scène qui m'avait pas mal stressée. J'en avais une autre, mais je peux pas vous le dire parce qu'il faut que vous voyez le film.
Exactement. Alors Lionel Abelansky, Léa Drucker, parce que Guillaume évidemment n'est pas tout seul dans ce film. Alors juste avant d'accueillir Guillaume, on va situer l'histoire de départ. Qu'est-ce que tu peux nous dire, comment démarre le film ?
Voilà, c'est Raymond, un agriculteur qui a une petite exploitation de poules pondeuses, donc qui font des œufs. Et notre agriculteur a une passion secrète pour Cyrano de Bergerac. Et il aime en réciter à ses poules parce qu'il se dit que d'abord elles aiment ça et que qui dit des poules heureuses dit des meilleurs œufs. Et il est toujours accompagné de sa poule Roxane. Et un matin, le couperet tombe, il apprend que son exploitation est trop petite pour sa coopérative qui préfère la plus grosse exploitation d'à côté. Et que du coup, il a 3 mois avant que son exploitation ne ferme. Et lui, Raymond, il va essayer de trouver une solution à sa manière et il va se dire, et si je faisais le buzz et que je rendais mes poules célèbres, les gens voudraient sauver ma ferme. Et voilà.
Et à la fois, c'est tellement moderne comme idée. Hein, aujourd'hui, on va dire qu'on médiatise tout. Hein, on peut tout médiatiser d'ailleurs, hein, à travers les réseaux sociaux, à travers les chaînes YouTube, etc. Donc à la fois, c'est tellement connecté, moderne comme histoire finalement, Mélanie.
Oui, et puis après, ce qui est génial, c'est que je suis déjà très contente de montrer qu'un agriculteur a un smartphone, il est pas tout le temps avec ses sabots, arrêtons ces clichés-là. Et puis après, ce qui est fabuleux, c'est que Raymond, il le fait avec beaucoup de naïveté, parce que finalement, il est très maladroit au début. C'est ce qui le rend aussi touchant, et c'est ce qui fait que les gens vont être séduits aussi par son personnage. Et parce qu'il essaye, avant tout, ce que j'adore, c'est que quand il le fait ça, c'est par espoir. Il y a beaucoup d'espoir quand il se dit, il faut que j'essaie de sauver ma ferme. Et du coup, sa naïveté le rend tellement touchant et je trouve ça super.
On écoute la bande-annonce. Roxane, ça sort le 12 juin au cinéma. On écoute.
5693 œufs, les filles. Bravo. Vous avez bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac. Allez, en voiture.
Roxane.
Le conduire peut-être aussi.
Ça va ?
La coopérative ne veut plus de petits producteurs.
Quoi ?
C'est fini, Roxane, on ferme dans 3 mois.
On en a bloqué des départementales. On en a balancé des œufs. Pourquoi vous faites pas le buzz?
Le buzz?
C'est pareil, on s'en fout.
Ah.
Ça marche, ce truc. Bonjour.
Nous sommes Roxane et Raymond.
Bah c'est ça, fais la gueule. T'as une meilleure idée, peut-être?
Pourquoi vous rigolez?
Tu nous avais pas dit que tu vivais avec un acteur?
Ouais. C'est un peu court, jeune homme.
Tout le lycée l'a vu, ta vidéo pourrie.
Tu te rends compte de ce que t'as fait?
C'est quoi la vidéo pourrie?
Papa, il a fait une bêtise.
J'étais pas si nul, quand même. Non?
Avec ma prochaine vidéo, je vais exploser les 100 000 vues.
T'es juste ridicule. Tu crois que la COP, elle va t'écouter avec ça?
Ben oui.
Ben non.
Je veux plus être chef des poules. C'est vrai comme métier.
Tu vas faire quoi?
Raymond.
Ah ben tiens, porter un petit costard comme maman, là. Tu vas faire des prêts à des gens qui pourront pas rembourser, comme nous.
Ça suffit, Raymond.
Ouais, ça suffit.
Mélanie, je te remercie d'être passée nous voir. On va parler évidemment avec Guillaume de Tonquédec du personnage de Raymond. Il va nous rejoindre dans 3 minutes. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
J'espère que les gens vont aller voir le film. Vraiment. Vraiment parce que je trouve que Guillaume de Tonquédec est extraordinaire. J'ai très envie que les gens s'intéressent à cette histoire parce que je pense que Roxane est un film plein d'espoir et d'authenticité et que, oh, allez, il fait du bien.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin avec toi, en tout cas, Mélanie. Guillaume de Tonquédec, c'est dans 3 minutes, alors à tout de suite, ne bougez pas.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, ben on va continuer à parler de Roxane, évidemment, c'est notre coup de cœur ciné de cette semaine, vous le savez, avec Guillaume de Tonquédec qui nous a rejoint, qui est un fidèle de l'émission aussi. Bonjour Guillaume et merci d'être avec nous.
Bonjour et merci pour votre fidélité à vous, de continuer à vous intéresser à mes projets.
Exactement, on est toujours là, vous le savez. Alors Roxane, on a planté le décor un petit peu avec Mélanie Offray, la réalisatrice, à l'instant. C'est presque une histoire d'amour entre Raymond et Roxane.
C'est une histoire d'amour, c'est sa plus grande complice. C'est quelqu'un qui est un taiseux, il a plus confiance en ses animaux qu'en les êtres humains qui l'entourent. Il est plus lui-même avec ses animaux, parce qu'il sait que elles ne jugeront pas, c'est ce que ses poules ne le jugeront pas. C'est pour ça qu'il peut se permettre de déclamer des vers avec elles. D'abord parce qu'il pense que ça leur fait du bien et qu'elles vont mieux pondre, et aussi parce que lui, il sait qu'il ne sera pas jugé par elles. Donc il y a quelque chose de très amusant et de très touchant dans sa démarche. Sauf qu'il va être obligé de trahir son propre secret, de se mettre en danger, pour le mettre sur les réseaux sociaux en faisant des petites vidéos sur YouTube, pour essayer de sauver son exploitation. Donc le film raconte le parcours initiatique d'un homme qui est obligé de tout risquer pour sauver ceux qu'il aime, c'est-à-dire la terre, son exploitation, et ce CEUX, sa femme, ses enfants, et aussi ses compagnons agriculteurs.
Qu'est-ce qu'on se dit quand on lit la première fois le scénario et que là, le personnage principal va jouer avec des poules? À un moment donné, qu'est-ce qui passe par la tête d'une de la réalisatrice, mais aussi surtout du comédien qu'on sollicite pour ce rôle?
Une immense joie d'abord, une immense curiosité et du coup une immense excitation. Je me dis mais ça va être génial de comment ça se passe quoi. Donc je suis allé avec Mélanie en Bretagne dans des exploitations voir d'abord si je pouvais approcher une poule parce que je l'avais jamais fait, si j'allais pas avoir peur parce que c'est quand même ou qu'elle ait peur de moi. Donc il a fallu un apprivoisement réciproque. Et c'était la condition de réussite du film, notamment avec Roxane, la poule principale et ma poule préférée, qui est devenue ma poule préférée pendant le tournage. Il fallait forcément que j'établisse une complicité avec elle. Et une fois que ça a eu lieu, c'est vrai que c'était très agréable. Je la gardais même entre les scènes avec moi, parce qu'il y avait quelque chose. C'est pas on se calmait l'un l'autre. Il y avait une communication comme ça entre nous deux qui s'est établie, ouais, vraiment.
Quels sont les conseils qu'a pu vous donner Manu, le dresseur, justement? Parce qu'il dresse toutes sortes d'animaux, mais là, des poules, comme quoi ça se dresse aussi?
Les poules se dressent aussi, et c'est pas évident. Donc il y avait plusieurs Roxane, en fait, pour vous dire la vérité. Il y avait une Roxane qui était dressée pour me suivre, une autre qui était dressée pour monter dans la voiture, une autre dressée qui était cascadeuse pour être dans la voiture et subir les coups de frein. Une autre qui faisait des mines où elle était en colère, et une autre amoureuse, enfin beaucoup plus tendre, qui est Roxane, que j'ai surnommée Roxanette, qui est ma préférée, et qui est celle qui a servi pour toutes les lectures du personnage, qui donc fait ce truc incroyable de s'écarter un peu dans un coin secret de l'exploitation, le coin lecture, pour lire à ses bêtes. Donc c'est un moment assez hallucinant, quoi. Heureusement qu'elle était à mon écoute, parce que moi j'avais des choses à jouer où le personnage de temps en temps est très très ému, et il fallait pas que la poule me suive, qu'elle soit d'accord avec ce qui se passe pour que les scènes ne soient pas soient vraies et qu'on puisse aller au bout. Et là, ça a été vraiment le cas avec elle.
Alors, c'est quoi le plus facile, jouer avec Roxane ou jouer avec les enfants Le Pic?
Ah, les deux sont terribles, impossible de d'être y a pas pire que les enfants et les animaux, c'est W.C. Fields qui disait ça et Mastroianni, ils avaient raison tous les deux, parce que un enfant quand il est bon ou un animal, ils sont dans l'instinct. Donc nous on a de temps en temps les acteurs professionnels, très honnêtement, perdu cet instinct là et on peut tricher, on peut jouer faux. Alors qu'une poule, elle joue toujours juste. Donc on a intérêt à être à la hauteur. Je veux dire, c'était une sacrée gageure.
On retrouve son instinct finalement en jouant avec une poule ou des animaux, des enfants.
Absolument. Balayer tout le reste et garder son instinct, quoi. Retrouver son instinct, quoi. Que tous les cours, toutes les choses qu'on a apprises, il faut les oublier et être dans la vie. Voilà.
Comment vous a dirigé Mélanie, justement? Comment ça s'est passé entre vous?
Mélanie, elle a souvent fait beaucoup de prises avec des couleurs et des variations d'émotions assez différentes pour avoir le choix au montage. Parce qu'elle ne savait pas encore exactement à quoi ressemblerait son film. Donc on a fait souvent beaucoup de prises et avec beaucoup de variations sur les émotions possibles.
Alors quelle est justement la scène pour vous que vous retiendrez qui vous a marqué ?
Il y en a plusieurs, mais il y en a une que j'aime beaucoup où le personnage est obligé de reconquérir sa femme qui travaille dans la banque, Léa Drucker. Il va la trouver pour lui réclamer un prêt. Donc il joue le jeu à fond. Ils sont séparés depuis quelques jours parce qu'il y a une très grosse brouille parce qu'elle ne croit pas à son initiative de vidéos sur YouTube.
Et elle croit au moins qu'il va arriver à sauver sa ferme comme ça.
Oui, elle pense que c'est totalement et qu'il est totalement dans ses rêves, qu'il agit comme un enfant, qu'il serait temps qu'il ait à nouveau les pieds sur terre. Elle travaille dans la banque, elle sait ce que c'est que les chiffres. Et pour autant, il va venir et lui faire une demande de prêt. Donc il va la vouvoyer, il va se comporter comme un client normal. Donc c'est très émouvant. Elle va répondre en le vouvoyant alors qu'elle ne le voyait pas depuis plusieurs jours. Et il va se mettre à lui déclamer ce très très joli texte de Edmond Rostand dans Cyrano qui lui parle, qui donne la définition d'un baiser. Un baiser mais à tout prendre qu'est-ce, un serment fait d'un peu plus près. Tout ce texte qui est bouleversant, en tout cas dans cette situation-là, qui prend une résonance exceptionnelle. Et c'est vraiment une de mes scènes préférées du film, et notamment par... l'écoute de Léa, on se connaît très bien comme comédien. Quand on a lu cette scène, on a tapé dans nos mains parce qu'on s'est dit c'est rare d'avoir des choses pareilles à interpréter. Et on s'est régalé à faire cette scène.
Alors, la petite histoire dit que vous avez envie d'adopter justement Roxane ou quelques Roxanettes, puisque faut toujours les adopter par plusieurs, hein, des poules.
Oui, je ça m'intéressait déjà avant le film et on en parle dans notre famille, mais on va peut-être réussir à le faire. Le problème c'est qu'il faut être là pour ces animaux. Donc comme je travaille beaucoup et que je suis pas tout le temps là, il va falloir trouver une solution. Donc mais on y réfléchit et en effet, on peut pas une poule toute seule, elle va déprimer. Deux poules, l'une va dominer l'autre et peut aller jusqu'à la faire souffrir voire la tuer. Donc il en faut souvent trois, une qui va dominer les deux autres, mais elle va répartir sa domination sur les deux, et donc les deux vont pouvoir survivre à la maltraitance de l'autre. C'est le monde animal est assez cruel. Donc si je me lance, il va falloir que je me lance pour trois. Mais j'adorerais garder Roxane, ouais, bien sûr.
Alors, c'est des races Sussex, hein, pour ceux qui connaissent pas, hein, ces poules-là. On va être précis un petit peu là-dessus. Guillaume, les projets pour 2019, pour terminer.
Les projets pour 2019, film de Éric Bénard qui s'appelle L'esprit de famille. Où un homme qui perd son père va faire son deuil en le faisant réapparaître sous forme de fantôme et en ayant un dialogue avec lui. Et puis un autre film de Johan Guillouzwyk, un premier film aussi, qui s'appelle Place des Victoires, où un homme qui est en train de divorcer et de sombrer vraiment, de tout perdre, va se faire voler son portable, qui est son seul lien avec ses enfants, puisqu'il y a une mesure d'éloignement contre lui. Il va courser les voleurs, en attraper un, c'est un petit rom de 11 ans. Et les deux personnages vont créer un lien d'amitié très fort, alors que dans une situation normale, ces deux personnages n'auraient jamais eu à se rencontrer. Quoi. C'est un très joli premier film aussi.
Est-ce qu'on peut imaginer que les Boulets et les Lepic se retrouveront un jour pour un one-shot à la télé ou au cinéma?
C'est pas du tout impossible. Honnêtement, le sujet n'est pas tabou. Au contraire, on en parle. Et évidemment, on adorerait. Quoi. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne idée. Voilà. Pas revenir pour être que ce soit décevant. Donc... la barre est très haute.
Maintenant, Fanny Rondeau qui vient d'arriver chez Elephant et compagnie, je suis sûr, va vous guider là-dessus, en tout cas. Merci infiniment, Guillaume.
Ouais, mais merci à vous.
À très vite, Guillaume et Roxane. Eh bien, ça sort le 12 juin au cinéma.
Bah, fais-en une autre. C'est comme ça que ça marche. Si tu veux gagner du public.
Il dit que c'est du fouet, d'autres disent que c'est de la rate.
Oser ce que tout le monde fuit.
J'ai toujours su que t'étais un peu artiste.
Ah bon?
Ça, c'est pour mon mari.
Ça, c'est pour nos poules!
Vraiment, on est tous dans la merde. Toi, tu fais tes conneries dans ton coin.
Et vous, alors, vous faites quoi?
Survivre à ce que tout le monde dit.
Dans trois semaines, j'ai plus rien. Alors, moi, au moins, j'essaye.
Crier sans doute. ce que tout le monde fuit, ce que tout
ils peuvent encore s'en sortir.
Vous y croyez encore?
Oui. Pourquoi est-ce que tu t'attaques jamais à Roméo et Juliette?
Avec Roxane, ça ferait bizarre, non?
Indiscrétion, scoop.
Scoop.
News. Tout de suite, l'infomédia.
Et dans l'infomédia, eh bien, cette semaine, les chaînes de télévision se sont engagées d'un commun accord à communiquer à partir de la rentrée de septembre 2019, eh bien, des horaires de début de programme de soirée plus conformes à la réalité effective de leur diffusion, a indiqué la semaine dernière le CSA. Soucieux de comprendre les raisons qui ont conduit de nombreuses chaînes à généraliser la pratique de décalage des horaires de diffusion en première partie de soirée, le CSA a donc réuni tous les responsables qui ont reconnu l'existence de ces décalages réguliers, précise le régulateur dans une déclaration transmise au lendemain de cette rencontre. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera donc vigilant sur le respect de cet engagement qu'il évaluera dès la fin de l'année. Le régulateur, qui privilégie une approche de responsabilisation, prévoit en outre de prochaines réunions pour s'assurer que des progrès ont été réalisés en la matière. Le CSA a lancé donc mi-mai une concertation avec les chaînes face à l'afflux de plaintes de téléspectateurs sur les retards de diffusion des prime time, avec en moyenne 20 plaintes reçues chaque semaine. Lundi, une première réunion donc s'est tenue avec des responsables du groupe TF1, Canal+, France Télévisions, M6, Next Radio ou encore Energy Group, et l'équipe est du syndicat des éditeurs de la presse magazine qui centralise notamment les grilles de programmes télé. Et puis en bref, dans l'infomédia que l'on va développer tout au long de la semaine dans les quotidiennes, Canal+ annonce le début du tournage de la 8e saison de la série Engrenage. France 3 annonce, lui, le tournage en Polynésie française jusqu'au 20 juin de Meurtre à Tahiti, avec la participation de Miss France 2019 Vaïma Lama Chavez. Les chefs Cyril Lignac et Jean-François Piège, eux, réunis dans une nouvelle émission culinaire pour M6. On vous en dira plus aussi dans, évidemment, la quotidienne. Et puis la radio numérique terrestre, 136 candidatures ont été retenues par le CSA dans 17 agglomérations. Voilà ce qu'il faudra retenir donc dans l'infomédia de cette semaine.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va parler de Camping Paradis. Évidemment, c'est un nouvel épisode inédit qui nous attend ce soir sur TF1. Ces années-là, avec un retour dans le passé pour cet épisode, avec Mathias Van Cash qui est avec nous et qui va nous en parler justement. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on va faire un retour dans le passé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir le camping dans les années 70.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est un épisode un peu hommage à... au film Retour vers le futur, puisque Tom va être projeté dans les années 70 et se retrouver dans le camping de son père. Et il va se rendre compte que l'histoire qu'on lui a racontée sur la rencontre idyllique entre son père et sa mère était peut-être pas forcément si idyllique que ça. Et bah, comme Marty McFly dans Retour vers le futur, il va devoir œuvrer pour faire que son père et sa mère tombent amoureux et que du coup le camping perdure et qu'il ne disparaisse pas, enfin en tout cas qu'il existe, puisque
oui, qu'il ne disparaisse pas dans le futur du coup.
Exactement, parce que si on tombe pas amoureux, il ne naît pas et il y a plus de Tom Delorme. Donc voilà, c'est une vraie plongée dans le camping tel qu'on l'avait dans les années 70, avec vraiment pas de bungalows, c'est des tentes, des vans Volkswagen, c'est vraiment il y a eu un souci de reconstitution qui est assez incroyable, parce que moi je me souviens, j'en ai fait un il y a 7 ans.
Mais c'est ce que j'allais te dire, ouais. T'en avais déjà fait un toi?
J'en avais fait un il y a 7 ans, avec un rôle un peu secondaire et tout ça, donc ça gênait pas que je revienne. Et quand j'ai débarqué sur le décor que je connaissais quand même bien, je l'ai pas reconnu. C'était vraiment... Les gens vont être très très surpris, parce que c'est un épisode qui a rien à voir avec Camping Paradis tel qu'on le connaît, et en même temps qui pose les bases en fait de Camping Paradis tel qu'on le connaît, puisque Tom a tout appris de son père en fait dans la série, qu'on n'a jamais vu. Et donc les bases de Camping Paradis, c'est un épisode un peu fondateur pour la série, puisque il va apprendre en fait tout ce que son père lui a appris, il va le réapprendre. Et
tu joues son père du coup?
Exactement, je joue son père et Dunia Cossens joue sa mère.
Sympa. On s'est pas foutu de toi quand même.
Non, ça va. Non, ça va. Ils ont été très gentils avec moi. Et puis voilà, et puis il y a une autre intrigue, il y a peu de guests sur cet épisode, il y a une autre famille qui est jouée par Benjamin Lazraki et Catherine Lefroy, pareil, où il va y avoir En fait, Tom va m'apprendre à être Tom, puisque moi au départ, voilà, vous verrez, je suis un peu dilettante dans ce camping, et il va m'apprendre ce que je lui ai appris. C'est un juste retour des choses où le fils va devenir un peu le père il va m'apprendre un peu la responsabilité. Et non, c'est un très très joli épisode. Vraiment, les gens qui l'ont vu déjà ont été ont rigolé parce que c'est très drôle de nous voir dans ces conditions-là et ont été très émus parce que c'est une vraie comédie romantique.
C'est un vrai retour aux sources en même temps du camping. On apprendra donc certainement des choses sur le passé de Tom par la même occasion. Est-ce que t'es surpris de voir, toi qu'on a fait deux du coup maintenant, des Camping Paradis, de voir le succès de cette série qui perdure encore 12 ans après quoi?
Ouais, alors non, je suis absolument pas surpris parce que c'est vrai que c'est quelque chose, ça fait appel au bon sentiment des gens. On est vachement en ce moment dans les films qu'on appelle feel good et tout ça, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose, c'est une série qui rassemble les gens sur des valeurs très bienveillantes et voilà, donc c'est pas du tout étonnant que ça plaise toujours autant parce que en plus là voilà, là c'est l'occasion en plus pour eux de se renouveler d'un point de vue scénaristique, d'amener des choses qu'ils ont jamais faites et tout ça, et donc
le crossover avec Joséphine Ange Gardien aussi qui était très réussi.
Exactement, le double crossover parce qu'ils en avaient fait un Joséphine et puis elle est venue après au camping. Et puis cerise sur le gâteau, c'est Laurent qui réalise. C'est son deuxième, c'est le deuxième épisode qu'il réalise. Il en a fait un l'année dernière et celui-là. Donc c'est un très très bon réalisateur. Je pense que c'est un grand réalisateur en devenir et c'est un excellent directeur d'acteurs. Vous allez voir que ouais, on est plutôt content de ce qu'on a fait parce que vraiment il nous a poussé à être meilleur à chaque fois. C'était vraiment c'est un vrai bonheur de travailler avec Laurent.
Tes projets, Mathias, pour 2019?
On devrait retourner du côté d'Annecy avec Lannick Gautry, Julie Debona, voilà, s'il y a des gens.
Une suite Hauteur du Lac.
Voilà, c'est pour un encore complètement différent. Ça va pas être une vraie suite dans une continuité, ça va être les mêmes personnages, mais
priori, avec une nouvelle enquête.
Avec quelque chose de complètement révolutionnaire, mais ça, je sais pas.
Voilà, ça y est, t'as teasé.
Voilà, ça c'est ça et en même temps c'est complètement autre chose. Voilà, et puis après le théâtre au Palace avec une pièce qui s'appelle les Feux de l'amour et du hasard avec des copains des Hernadettes, la troupe des Hernadettes. Voilà, il y en a trois Hernadettes avec nous. On reprend la rentrée au Palace, voilà. Et c'est très très drôle, c'est le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux joué par les acteurs des Feux de l'amour.
Eh bien, c'est un très beau rendez-vous que tu nous donnes là encore à la rentrée. Et puis ce soir, c'est Camping Paradis, ces années-là. Il faut pas le rater. Voilà, vous allez voir, c'est un très très bel épisode qu'on vous a concocté. Merci. Voilà.
Merci à vous.
Et à très bientôt, Mathias.
Tom, tu peux me remplacer au bar parce que j'ai rendez-vous à 11h chez le podologue. Si j'y vais pas, ils vont me faire payer la séance.
Ah ben, j'aurais bien voulu, mais alors il faut que j'aille à Aix toute la journée là.
Qu'est-ce que tu vas faire à Aix?
Eh ben, j'ai rendez-vous avec les gars d'Eurocamping, le groupe hollandais qui veut nous racheter. En fait, ils ont ouvert une nouvelle structure là-bas et ils m'ont proposé d'aller la visiter. Je pense qu'ils vont nous faire une offre dans la foulée. Hein. Tiens, d'ailleurs, voilà à quoi ressemblerait le nouveau Camping Paradis.
Si tu voulais vendre.
Ah oui, des panneaux solaires, des potagers, des vergers bio.
Un bar au milieu des deux piscines, ça c'est plutôt pas mal ça.
Non mais ça ressemble plus à notre camping là, c'est pas le camping de Patrick et Marie ça.
Enfin, mes parents ont ouvert le camping en 1976, hein. Il faut quand même savoir évoluer avec son temps. Ah, et puis vraiment, je trouve que c'est un joli projet, ambitieux, et qui nécessite des investissements que je peux pas faire tout seul pour arriver à ça.
Allez, après le père, eh bien c'est le fils. En plus, il a réalisé ces épisodes que vous allez voir ce soir sur TF1. C'est Laurent Ornac qui nous rejoint, le héros de Camping Paradis. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être de nouveau avec nous dans Chute, on écoute la télé, fidèle de l'émission aussi. Alors, ces années-là, c'est vraiment un épisode particulier pour toi, parce que d'une, tu l'as réalisé, et en plus, on va en connaître un petit peu plus sur les origines du Camping Paradis.
Oui, c'est un épisode assez particulier pour toute l'équipe d'ailleurs, parce que c'est aussi une narration différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On est parti dans une d'habitude, on est voilà, toujours des histoires qui se passent en 2019 ou en 2018. Voilà, là c'est vrai qu'on est parti dans une écriture un peu plus fantastique où Tom se retrouve dans le camping de ses parents en 1976 et voilà, il va découvrir un peu le camping. Enfin, il va découvrir clairement d'ailleurs le camping en 76, celui de ses parents. Celui qu'on lui a décrit, enfant, adolescent, adulte, avec ses souvenirs. Et puis il va se rendre compte que la réalité n'est pas exactement aussi belle que ce qu'on lui avait décrit, que l'histoire idyllique d'amour de ses parents n'a pas été aussi simple, que le camping qui a toujours été un lieu aimé et un vrai succès n'a pas toujours été ça. Et du coup c'est déjà une surprise pour lui. Et puis évidemment il va être là pour aider et pour écouter et faire ce qu'il sait faire de mieux finalement, c'est aider les autres. Donc c'est vrai que c'est un épisode assez particulier pour pour nous, parce que ça a été un gros travail de décor, ça a été un gros travail de transformation du camping comme on le connaît. Puis voilà, c'est un épisode aussi particulier pour moi parce que j'ai la confiance voilà de la production de TF1 pour réaliser cet épisode différent. Donc voilà, c'est mon deuxième. Le premier l'année dernière avait plu à tout le monde. Donc voilà, j'avais demandé d'en faire un nouveau, et voilà, c'était l'épisode un peu en plus fort de l'année pour nous. Donc c'est voilà un plaisir de l'avoir fait. Et puis voilà, j'ai eu un très bon texte, un très beau casting avec notamment Mathias et Dounia Cossins qui jouent le rôle de mes parents un peu plus jeunes. Donc voilà, c'est je suis vraiment ravi de ce film, et je suis vraiment ravi en plus de l'accueil qui lui a été réservé notamment au Festival de Luchon, et puis l'accueil aussi par TF1 qui juge aussi le film quand on leur présente, et puis par la production. Donc voilà, je suis très très heureux du résultat final.
T'as pas choisi la facilité pour ta deuxième réalisation, repartir dans le passé avec tout le travail, voilà, tu disais de décors de reconstitution, parce que là il y a des voitures anciennes, enfin voilà, on se retrouve vraiment plongé dans les années 70.
Oui, il y a un petit côté film d'époque en fait, hein. Il y a un gros travail de déco, de figuration aussi, de costumes, de coiffure, de maquillage, tout était très différent. Et puis c'est vrai que je n'ai pas moi connu les années 70, je suis né en 80, donc du coup, alors j'ai demandé à mes parents pas mal de choses, et puis ça pour être le plus juste possible. Voilà, il y a deux petites erreurs anachroniques qui se sont glissées, pas forcément volontaires mais presque, et voilà, je laisserai les téléspectateurs me faire un retour là-dessus, voir s'ils ont trouvé les petites coquilles.
Je suis sûr que cet épisode, évidemment, ça tenait à cœur de le réaliser. Ça aurait été dommage que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse.
Ça me fait plaisir. C'est un épisode où du coup je suis aussi très présent à l'image, donc il y avait beaucoup de séquences où il fallait que je tourne en même temps que je réalise, donc du coup ça nécessite un peu plus d'organisation et de concentration. Après, j'ai la chance d'avoir une super équipe qui travaille à mes côtés pour justement faire en sorte que l'exercice se passe bien. Après, le plaisir n'est pas dans le fait de se diriger soi-même en tant qu'acteur et d'être le réalisateur de ses propres plans. Ce que j'aime, c'est diriger le plateau, les autres, voilà, travailler leur texte, affiner le jeu. Voilà, c'est ça qui est plaisant. C'est vrai qu'on s'en oublie. Autant je sais qu'il y a des réalisateurs comédiens qui prennent du temps sur eux, autant c'est vrai que j'ai tendance un peu à m'oublier, mais c'est aussi parce que je connais le rôle depuis maintenant 12 ans, que je vis avec, que je le porte, que voilà, donc du coup c'est vrai que je me fais confiance, et puis quand mon équipe me dit c'est bon, je sais que c'est qu'on a ce qu'il faut, donc on peut passer ensuite à autre chose. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une organisation assez une concentration en tout cas minute par minute, parce qu'une journée c'est long, c'est 9 heures de tournage, mais en même temps c'est trop court parce qu'on a toujours envie d'en faire plus. Donc du coup c'est voilà, il faut aller à l'essentiel tout en essayant de proposer quelque chose de propre, de soigné, qui fasse plaisir aux gens. Ouais.
Cette deuxième réalisation, ça te donne des envies peut-être pour le cinéma de réaliser aussi, ou de réaliser un troisième Camping Paradis en 2019?
Bah, sans parler de cinéma, j'ai pas cette prétention là forcément, mais déjà réaliser un autre épisode, oui, ça va se faire d'ailleurs, hein. Je vais en réaliser encore un cette année, donc je suis très heureux. Et puis voilà, sans parler de cinéma, mais en tout cas pourquoi pas penser à réaliser autre chose à la télévision, et pas forcément des choses dans lesquelles je joue. Une fois de plus, hein, c'est pas pour me filmer moi que j'ai envie de le faire, c'est plutôt pour filmer les autres. Donc oui, pourquoi pas à terme réfléchir ou trouver un projet où je pourrais réaliser. Après, il y a des réalisateurs qui écrivent, il y a des réalisateurs qui n'écrivent pas. Voilà, moi j'écris pas encore beaucoup, donc voilà. Mais tout ça se fera aussi avec le temps, voilà, et en faisant ses armes, hein, parce que j'ai bien conscience que c'est un cadeau qu'on me fait, pas un cadeau de sale gosse, mais il y a un côté, voilà, je suis un comédien d'une quarantaine d'années qui porte une série depuis bientôt 12 ans. Voilà, je demande à réaliser, on me dit oui parce que voilà, on a aussi envie de me faire plaisir, parce que bah voilà, c'est une série qui marche depuis longtemps et tout le monde est très heureux de ça. Et en même temps, pourquoi d'un coup un comédien aurait la possibilité de réaliser sans avoir suivi le parcours habituel que plein de réalisateurs eux suivent? Donc j'ai bien conscience qu'au départ, on me fait une fleur en me donnant la possibilité de le faire, et en même temps, c'est comme tout, on peut avoir une chance dans la vie, mais il faut valider l'essai pour ensuite faire en sorte que les choses deviennent pérennes. Donc voilà, je bosse en tout cas pour montrer que ma place est à faire, et que j'en ai conscience, et que je le ferai le mieux possible.
Eh bien, en tout cas, on va suivre, hein, ce nouvel épisode inédit. Ça s'appelle Ces années-là, et on va le retrouver donc ce soir sur TF1. Mathias Vancache, Dounia Cossins, c'est un très très beau casting. Un petit mot pour tes fans, ils sont tellement nombreux aujourd'hui, plus de 5 millions de téléspectateurs, 12 ans après, est-ce que tu imaginais ça il y a 12 ans?
Non, je l'imaginais pas, puis je crois que personne l'imaginait. C'est très difficile aujourd'hui d'installer des séries sur le long terme, on en fait partie, voilà, la télévision a évolué depuis que nous sommes arrivés, nous, avec Camping Paradis. On peut considérer qu'on fait partie un peu de la fiction historique, de la fiction de l'âge ancien, on va presque dire. Alors qu'on est, c'est très dur de dire ça parce qu'on est, on est jeune, nous, on a une quarantaine d'années. J'ai commencé la série à 26 ans, c'est sûr. Et la télévision a énormément évolué, la fiction a été énormément renouvelée depuis. Mais malgré tout, bah voilà, on est là et on a conscience de ce qu'on fait. Et quand on va, justement, quand on voit l'offre qui est proposée, bah on se rend compte que la fiction, elle a aujourd'hui une offre très large avec des choses très pointues. Et elle a aussi une offre beaucoup plus populaire, beaucoup plus accessible, familiale. Et elle est portée aujourd'hui par des séries comme Camping Paradis, mais par d'autres séries comme Clem et Joséphine, voilà, une série historique. Alors on est encore, on est encore dans l'âge canonique de la fiction française. Mais voilà, Mimi, et on l'a vu quand on a fait le crossover l'année dernière avec ce mélange des genres de Camping Paradis et Joséphine.
Quel carton!
Ça a été un énorme résultat où on a tous été évidemment ravis de ça, de voir que justement les deux séries parlent autant aux gens. Et voilà, donc il y a encore une place pour ça. Combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, tant que les gens sont fidèles au rendez-vous, on continue avec plaisir et en mesurant la chance qu'on a de pouvoir vivre ça. Ouais.
On espère peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres personnages de d'autres séries qui viendraient s'inviter au Camping Paradis. On peut imaginer la famille de Clem, on peut imaginer plein de choses à l'avenir.
Oui, il y a des rencontres qui peuvent se faire à l'infini, puisque c'est vrai que finalement, ce camping peut accueillir plein de gens et d'origines différentes. Voilà. Après, honnêtement, c'est difficile à mettre en place, parce que c'est des productions. Les séries appartiennent à TF1, mais elles sont gérées par des productions différentes. Donc, c'est comme si d'un coup, on disait Citroën et Renault doivent faire une voiture ensemble. Bon, forcément, c'est des enjeux qui sont un peu difficiles où tout le monde doit trouver son équilibre. Pourquoi pas nous en refaire? Oui, ça serait rigolo. Mais même un univers policier avec Camping Paradis, pourquoi pas? Ça serait rigolo de retrouver Monsieur Tinivelli au Camping Paradis, ou Philippe Bas, pourquoi pas, le profilage. Oui, ça serait rigolo. Ouais.
Bon, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Laurent, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial. Ne le ratez pas, hein. Ce soir, vous allez découvrir plein de choses sur l'univers et le passé du Camping Paradis. Et on te dit à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Je vous rappelle que votre station préférée vous fait gagner des places pour le concert de Claude François samedi prochain à Marseille. Et tout de suite, une petite page de réclame. On se retrouve juste après.
Bonjour. On est bien d'accord que Claude François, il est mort, hein?
Ah non, Clo-Clo, il est pas mort, non.
Cette année-là, numéro 1 en Ring Parade. Vous la connaissez pas, c'est sa dernière chanson.
Ah bah si, non, si, bien sûr, oui, non, cette année-là, bien sûr, je connais, oui. Pardon de vous demander ça, mais on est quel jour, en fait?
Mercredi, pourquoi?
Mercredi combien?
21 juillet.
Et de quelle année?
76.
Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible, ça. Mais où est-ce que je suis? Bon, faut que je trouve les bleus. Mais merci. Hein. Un pitard.
Allez, on retrouve notre charentaise de cœur dans Chut, on écoute la télé avec Marjorie, nouvel épisode qui sera diffusé mercredi sur France 2. Anne Charrier est de retour. Merci d'être avec nous. Alors Anne, voilà Marjorie qui fête son 4e épisode cette semaine sur France 2. C'est l'âge de la raison. On va en parler évidemment. Une série qui marche, qui cartonne. 4 millions de téléspectateurs. Ça marche plutôt bien.
Ah ouais, on est très très heureux. On est très heureux d'avoir, on espère que ça continue, d'avoir fédéré autour de ce personnage.
Alors ce personnage, qu'est-ce qui t'a séduit déjà dans ce personnage à la base, quand on te l'a présenté?
C'est sa fantaisie, c'est l'aspect peu conventionnel de sa façon d'appréhender et le monde et sa profession. Et puis, on avait très envie avec Yvan d'un feel-good movie, de quelque chose qui soit positif, d'un personnage positif. Et Marjorie avait ça, qu'elle était positive tout en ayant ses failles à elle et en sachant voir celles des autres. Voilà, donc ça a amené des situations de comédie, voilà, et des objets de fiction tout à fait possibles et joyeux.
On voit vraiment que la comédie prend le pas, hein, sur le policier. Les gens ont vraiment besoin aujourd'hui de se détendre et de rire autour de personnages comme le tien.
Ouais, mais je pense que c'est le reflet du monde. Et puis on voit que là, c'est compliqué en ce moment.
Il va se passer plein de choses en plus dans cet épisode. Alors elle va avoir le droit à un contrôle fiscal, elle va avoir le droit au beau-frère qui est en pleine dépression. Bref, il va se passer plein de choses dans cet épisode.
Oui, et puis elle va rencontrer quelqu'un. elle va au moins appréhender une histoire d'amour, ce qui est très inédit chez elle, puisque c'est quand même la loose complète en général niveau cœur. Donc elle va avoir droit à ça, un petit émoi amoureux. Et puis c'est aussi une nouvelle étape dans sa relation avec Thibaut, avec son beau-frère. Et puis la rencontre avec un personnage qui fait forcément écho à ce qu'on ne traite pas d'elle, mais dont on comprend qu'il y a une faille personnelle dans l'enfance, son rapport à sa sœur. C'est voilà, tout ça est très compliqué. Et on comprend que le personnage de Thierry révèle aussi certaines choses chez elle.
Il va se montrer particulièrement un peu vraiment froid, odieux, Thierry Frémont, hein, quand même, dans ce contrôle.
Ah, très hostile, oui, oui.
Ça va donner. Quand tu as lu le scénario de ce quatrième épisode, tu t'es dit quoi ?
Ah, je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve un acteur qui puisse camper ce personnage-là. Et j'ai été ravie de savoir que Thierry ferait partie de l'aventure, parce que je savais qu'il aurait cette... Parce qu'il faut aussi beaucoup de fantaisie pour incarner un personnage aussi rigide et aussi tenu et aussi serré à l'intérieur de lui. Forcément, Thierry, il a ça.
Alors là, c'est le quatrième épisode, mais il y a déjà un cinquième de tournée, donc Marjorie continue, évidemment. Tu te vois continuer longtemps, ce personnage ?
Oui, alors j'espère qu'on aura l'occasion. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est très joyeux, c'est des tournages très joyeux. Moi, ma seule condition et ma vraie contrainte, c'est d'avoir des choses à raconter. C'est qu'on ne répète pas les mêmes histoires systématiquement. Donc voilà, si on arrive à faire ça, bien sûr, moi j'en suis.
Quelle évolution tu aimerais que Yvan, dans le scénario, amène à ton personnage dans les épisodes futurs ? Est-ce que tu as des souhaits particuliers ?
Alors, si je vous le disais, je vous révélerais ce qui se passe dans le 5, ce que je ne vais pas faire. Donc voilà, donc je ne vais pas vous dire.
La suite est déjà prévue, est-ce que tu envisages le 6, le 7 ?
On attend la diffusion et on verra ensuite.
L'âge de la raison, c'est mercredi, sur France 2, on va suivre ça, Anne. Et puis on va se quitter avec la bande-annonce, merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois.
Merci beaucoup.
Bonjour, je ne reçois pas sans rendez-vous, monsieur ?
Aubenas, inspecteur des impôts. Nous avions rendez-vous 9h30. Vous avez 32 minutes de retard.
Je vous en prie, monsieur Lévestre. Écoutez, sincèrement, j'ignorais votre passage et là, ça tombe mal.
Je vous ai envoyé une lettre recommandée le 15 mai.
J'ai dû oublier.
Vous avez eu au téléphone le 6 juin, aux alentours de 15h30, pour vous prévenir de ma venue.
Ah, jamais.
J'ai appelé sur votre portable.
Ah, mais non, vous avez dû tomber sur ma fille, c'est ça, lui arrive.
La défense numéro 1 de tous les fraudeurs est de prétendre qu'ils n'étaient pas au courant de leur contrôle.
Écoutez, est-ce qu'on peut reprendre rendez-vous pour la semaine prochaine ? J'aurais eu temps
de me retourner. La défense numéro 2 vise toujours une demande de délai supplémentaire. Bien, vous avez un endroit où je peux m'installer ?
Allez, on va continuer évidemment eh bien, notre émission d'ici quelques instants avec Yvan Calberac. C'est le créateur de la série Marjorie, mais aussi surtout le réalisateur du très beau film Venise n'est pas en Italie, qui vient de sortir dans les salles. Il nous en parle dans un instant. Alors surtout, vous ne bougez pas, on revient dans 3 minutes. A tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur ciné aussi cette semaine, puisque vient de sortir depuis mercredi dernier dans les salles le nouveau film d'Yvan Calberac qui est avec nous. Venise n'est pas en Italie, il va nous raconter tout ça. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on s'était vu avec Noémie Schmitt il y a maintenant quelques années pour ce très beau film L'étudiante et Monsieur Henri. Et donc là, c'est une nouvelle histoire avec Benoît Poulvord, Élie Thonaz et bien sûr Valérie Bonneton, qu'on adore tous, que vous nous revenez avec un nouveau film.
Absolument. C'est l'histoire de la famille Chamodeau. C'est une famille un petit peu bizarre parce que les parents teignent en blond les cheveux de leur fils parce qu'ils le trouvent plus beau comme ça. Ils l'ont tellement percuté que c'est le cas que lui est complètement d'accord pour se laisser faire. Et puis en plus, ils vivent en caravane parce qu'ils n'ont pas encore leur permis de construire. Ils vivent sur le terrain de la maison qu'ils doivent construire. Et en fait, l'histoire, c'est que ce jeune homme tombe amoureux d'une fille qui, elle, vient d'un milieu social bien supérieur au sien et qui l'invite à Venise pour un concert. Et lui demande un billet de train à ses parents et ses parents lui disent « Mais non, c'est super, on va tous y aller avec la caravane ». C'est un cauchemar pour lui et le début d'une aventure assez rocambolesque.
Alors, il faut dire que Élie, dans le film, a un père effectivement très rock'n'roll, on peut le qualifier comme ça. Benoît Poulvord, c'est un peu le comédien idéal pour jouer ce rôle.
C'est un père un peu embarrassant quand on est un jeune ado de 15 ans et qu'on a envie de passer inaperçu parce qu'il est assez fanfaron. En même temps, on retrouve Benoît dans un rôle très touchant. Hein. Benoît Poulvord, mais dans ce film, il est à la fois son personnage est haut en couleur, mais malgré tout, il n'est pas complètement en roue libre. Hein. Il est quand même très touchant et la plupart des gens me disent ça, oh là là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu Benoît comme ça, mais c'est effectivement un père assez haut en couleur et c'est pas facile à assumer quand on a 14 ou 15 ans.
Comment vous avez eu l'idée, Yvan, de réunir ce couple, Benoît et Valérie?
En fait, ce sont deux acteurs que j'adore, qui sont des magnifiques acteurs de comédie. Et pour incarner cette famille un peu déjantée, j'avais besoin d'acteurs qui soient un peu fous naturellement. J'ai pas besoin de jouer la folie. Et avec Benoît Appelbord et Valérie Bonneton, bah, on a tout de suite ce grain de folie que je cherchais. Et en même temps, ils sont très émouvants, ils sont très touchants. C'est des parents maladroits, mais en même temps plein d'amour. Et il y a toutes leurs contradictions qui sont décrites tout le long de l'histoire. Ça parle de l'éducation, de la difficulté de comprendre ses ados, mais aussi d'assumer ses parents quand on est ado. Voilà, il y a plein de thèmes dans ce film. C'est une comédie, mais pas seulement.
Le jeune Elitona, évidemment, qu'on découvre dans ce film. Alors, pour ceux qui sont observateurs, vous l'avez peut-être déjà vu, puisqu'il a joué dans La Soif de Vivre sur France 2, aux côtés de Greg Montel et Claire Keim. Et le jeune Eli a bien grandi quand même, hein, depuis deux ans maintenant, depuis ce téléfilm.
Et même depuis que je l'ai casté, parce que moi, je l'ai rencontré l'année dernière. Et entre le moment où je l'ai choisi en casting et le moment où on a tourné, il avait déjà pris 5 ou 6 cm. Et là, cette année, maintenant qu'on fait la promo ensemble, il a pris encore 10 ou 15 cm. Donc il était plus petit que moi, maintenant il me dépasse. C'est vrai qu'à cet âge-là, c'est impressionnant. Hein, ça pousse tout seul. Hein.
Vous l'avez trouvé comment, Yvan, justement, Eli? Est-ce que vous l'aviez vu dans La Soif de Vivre avant? Vous l'aviez vu dans autre chose?
Alors non, j'ai fait un grand casting et puis quand je l'ai rencontré, j'ai tombé complètement sous le charme de cet acteur, vraiment incroyablement doué pour son âge. Et du coup, j'ai regardé le téléfilm et j'ai regardé les autres choses qu'il avait déjà faites. Mais à la base, c'était juste sur un casting où on a vu plein d'enfants qui avaient joué, d'autres qui n'avaient pas encore joué. Et il a vraiment tout de suite été incroyable, remarquable. Donc il a mis tout le monde d'accord, j'ai envie de dire. On l'a choisi très rapidement.
Alors Yvan, je pense que vous allez faire plaisir à beaucoup de fans de Plus belle la vie, puisque vous pourrez remarquer que dans le personnage de Natacha, eh bien, on va avoir le grand plaisir de revoir Colin Dinka, et en plus, sur grand écran, hein, dans votre film.
Oui, c'est ça, Colin Dinka, qui jouait Sibyl dans Plus belle la vie il y a quelques années, qui est partie de la série, et qui joue aujourd'hui maintenant, prendre sa chance sur le grand écran, et avec bonheur, elle joue le rôle de Natacha, pour ceux qui connaissent l'histoire, parce que je rappelle que ce film était à la base un roman sorti de poche il y a deux ans qui a très bien marché et dans lequel donc il y avait ce personnage de Natacha que la famille rencontre sur la route. C'est Colin effectivement qui l'interprète magnifiquement.
Alors oui, justement, c'est une adaptation d'un roman. Est-ce que ça a été facile pour obtenir les droits d'adaptation? Comment vous avez négocié ça, Yvan?
Ah ben, ça a été facile vu que c'est moi qui ai écrit le roman. Donc,
je voulais en venir là, ça tombe bien.
Donc oui, ça a été facile. Après, c'est vrai que le succès du roman qui ressort d'ailleurs en librairie là, ces jours-ci pour le film a été tel que ça nous a vraiment permis de financer le film plus facilement. Ça, c'est sûr, ça nous a aidé aussi à ça parce que cette histoire avait déjà de la notoriété, elle avait déjà bien marché en roman. Et puis on a eu aussi une pièce de théâtre, un seul en scène, où un jeune acteur qui s'appelle Thomas Oliveras jouait tous les personnages de cette histoire. Ça s'est arrivé de manière totalement inattendue. C'est pas prévu, mais voilà, ça a tourné dans toute la France, à Paris, à Avignon, et un peu partout en France. Et ça aussi, ça a été une manière pour moi de tester l'histoire, de l'expérimenter sur un public et de préparer l'adaptation cinématographique.
Alors maintenant qu'on a dévoilé le secret de l'adaptation, là, ça vient à ma question prochaine. Pour le coup, Yvan, qu'est-ce que ça fait maintenant d'écrire une histoire et de l'avoir transposée comme ça maintenant sur notre grand écran, vu qu'elle appartient depuis quelques jours maintenant au public au cinéma?
Bah, c'est assez bouleversant, hein, surtout qu'on a des retours qui sont super positifs et c'est très fort en fait, très fort de voir des personnages, des acteurs s'emparer des rôles comme ça, comme l'ont fait Benoît Appelbord, Valérie Bonneton, Elitona, Eugène Marcus, Colin Dinka qu'on a cité et tous les autres. C'est vraiment une expérience toujours puissante et très joyeuse, hein, pour moi. Et puis de partager ça avec le public, là il y a eu beaucoup de gens qui me disent « bon, cette famille elle est un peu folle mais finalement elle nous ressemble beaucoup ». Et ça, c'est ce qu'on pouvait me dire de plus touchant. Benoît Appelbord, quand il a lu le scénario, il m'a dit « Je vais enfin faire un film que ma mère va aimer ». Ça m'avait beaucoup fait rire, mais c'est vrai qu'il y a un côté intergénérationnel aussi dans ce film. On peut vraiment y aller en famille, avec ses enfants, mais aussi avec ses parents. Donc c'est un film qui, j'espère, va rassembler les gens, va faire parler aussi, parce que ça raconte pas mal de choses sur l'éducation. Et voilà, je suis vraiment très très heureux de pouvoir le partager.
Alors, autre actualité pour le coup, puisque ça sera mercredi sur France 2, vous êtes l'instigateur de la série Marjorie, dont on va voir un nouvel épisode. Ça sera mercredi sur France 2. L'âge de raison, vous avez créé cette série avec Anne Charrier, et on va découvrir déjà le quatrième épisode, et le cinquième d'ailleurs la semaine prochaine aussi.
Oui, c'est ça, c'est une série que j'ai créée il y a déjà 2-3 ans, et... Alors, c'est plus une collection qu'une série, parce que ce sont à chaque fois des 90 minutes. Anne Charrier, c'est une comédienne magnifique. Le premier épisode était avec Patrick Chenet. Il avait rencontré un grand succès quand on l'a diffusé. Et puis le deuxième était avec Bruno Solo. Voilà, j'avais réalisé ces deux premiers épisodes. Après, j'ai passé la main à Mona Achache, qui est une superbe réalisatrice. Et j'ai coécrit les épisodes qui viennent. Voilà, c'est l'histoire d'une thérapeute, d'une sorte de coach de vie qui aide les gens à retrouver l'âme sœur. Elle s'appelle Marjorie, voilà. Mais elle-même, dans sa vie, elle est un peu seule et elle a beaucoup de mal à recréer un couple. Donc c'est ce principe de cordonnier toujours les plus mal chaussés qui m'amusait. Et c'est aussi cette idée d'être toujours à mi-chemin entre la comédie et l'émotion, comme dans Venise n'est pas en Italie, de travailler sur l'humour, mais en même temps des choses profondes, des sujets touchants.
Et mercredi, elle aura quelques petits problèmes avec un inspecteur des impôts, pas comme les autres, joué par Thierry Frémont, qu'on adore aussi. Et ça sera l'épisode à ne pas manquer mercredi, en tout cas. Venise n'est pas en Italie, c'est le film qu'il vous faut pas rater en ce moment au cinéma. Il est sorti mercredi dernier, donc vous pouvez y aller immédiatement. Il est dans toutes les bonnes salles de cinéma en France. Et puis, Yvan, merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Je sais que le planning est très, très chargé. À très vite, on se retrouve bientôt.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
À très bientôt, merci Yvan.
À bientôt.
Tres, Margherita et un piquelou.
Certo.
Ah bon?
Certo. Ça veut dire bien sûr.
Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu.
Gracias.
Prego.
Prego tout.
Je veux pas vivre dans une caravane toute ma vie.
Un jour, tu regretteras notre vie de bohème.
Crois pas, non. Si ça tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances.
Carrément, c'est où?
En Italie, à Venise.
De l'argent, moi je trouve pas sous le sabot d'un cheval.
Je sais, mais j'aimerais trop y aller.
J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise.
T'es sérieux?
Avec notre caravane.
Ouais.
Bah ça te fait pas plaisir? Tous les chemins mènent à Rome. Et Venise n'est pas bien loin de Rome. Ah yeah! Banane, allez tous ensemble! Allez!
Bienvenue chez les dingues.
Juste en face de Venise, il y a un camping. Pas cher du tout.
On n'est pas bien ici?
Avec l'usine à côté.
L'usine, elle pue, mais elle ne fait pas de bruit. Ça reste positif. Baba mama Rafiki.
En amour, il n'y a qu'une règle. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, mon fils.
T'as honte de nous? On te convient pas comme parents?
Oui, j'ai honte. Et j'ai honte qu'on soit pas une famille normale.
Mais ça n'existe pas, les gens normaux. Aimé, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai inventé une nage. Tu sais comment je l'ai baptisé? L'huître.
L'huître.
Mais ça nage pas, une huître.
Et le papillon? Le papillon, ça nage?
Ouais, c'est ça, je vais me recoucher. Baba mama
Rafiki. Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et lundi prochain les amis, eh bien on se retrouvera pour un best-of exceptionnel de Chute on écoute la télé pour ce lundi de Pentecôte. Ça nous permettra voilà de revivre ensemble eh bien les meilleurs moments qui ont fait notre saison de Chute on écoute la télé à maintenant eh bien un petit mois et demi de la fin de saison. Alors un rendez-vous à ne pas manquer, ça c'est lundi prochain dans Chute on écoute la télé best-of exceptionnel.
Chute on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous retrouver tout au long de la semaine, tous les jours à midi sur Brenige FM. D'ici là, eh bien je vous donne rendez-vous également lundi prochain à 19h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée à tous à l'écoute de nos programmes.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.